la nuit.
Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Et tout d'abord à chacun et à chacune d'entre vous, belle et sainte année 2014, vécue dans la confiance, travaillant à la paix et à la réconciliation à tous les niveaux, en commençant bien avec nous-mêmes. Et pour nous y aider, notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Donc, au sein de l'Institut de formation psychrétien, avec Marie-Laurence, son épouse, il propose une aide thérapeutique qui est adaptée à chaque situation de la vie, et cela en vue d'une réconciliation avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres, pour être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, et à vous aussi, belle et sainte année, ainsi qu'à Marie-Laurence et à Mathieu, votre fils. Voilà, toute votre famille. Alors justement, nous allons voir avec vous comment démarrer l'année dans la confiance. Hein, c'est une bonne chose pour démarrer l'année.
Voilà, la démarrer ou la faire venir au fur et à mesure.
Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. La faire venir, advenir au fur et à mesure, jour après jour, moment après moment. Alors, c'est vrai que c'est le moment peut-être quand même de recaler les choses quand on...
Oui, en tout cas le début d'année, c'est un moment où on se fait des vœux pour l'année, on met en perspective. C'est un moment à la fois d'espoir, d'attente, parfois de crainte. Donc il y a tout ça, il y a tous nos désirs aussi pour l'année à venir. Donc c'est le moment aussi de l'inscrire dans la confiance.
C'est pour réussir quelque chose, il faut être dans la confiance, c'est la base.
Voilà. Oui. Et en même temps, quand on regarde ou qu'on écoute un peu les médias aujourd'hui,
un peu moins
Radio Notre-Dame.
Oui, les radios chrétiennes ont une autre même.
En tout cas, on le sait tous, c'est une période de crise économique, mais aussi surtout dans un monde qui se cherche.
Oui, bien sûr.
On voit que les éclipses se déplacent, l'emploi se déplace, l'argent se déplace. On voit qu'on est dans un équilibre qui est en train de se transformer. Voilà, la bonne vieille Europe, elle est peut-être plus la puissance qu'elle était avant et les choses vont bouger.
Oui.
Mais en même temps, ces crises, puisqu'on est dans une crise, il y en a même qui disent que c'est pas une crise économique, que c'est une crise structurelle, c'est aussi un moyen de chercher une solution, en fait. Les systémiciens disent quand on change de système, on passe par une période de turbulence, le temps de trouver un nouvel équilibre.
C'est vrai, de périodes que, comme dans la vie humaine, d'un passage, il y a des moments de crise.
Voilà, mais la crise est là pour trouver le nouvel équilibre. Mais pour ça, il faut avoir confiance qu'on va le trouver.
Voilà, il ne faut pas être pessimiste et être défaitiste.
Voilà, il ne faut pas être dans la résignation, mais au contraire, être dans l'espérance, dans l'action, dans le dynamisme, pour trouver ce nouvel équilibre.
Voilà, du neuf, c'est cela. Alors donc, il ne faut pas se laisser entrer dans un cercle négatif.
Dans un cercle négatif, oui, du pessimiste. Il faut ouvrir aussi son regard.
sur ce qui se fait de positif
partout dans le monde. Il y a des milliers de choses positives qui se font. Alors, il y a des choses négatives, mais il y a sûrement autant de choses positives dont on parle peu.
Mais oui, c'est sûr. Malheureusement, parce que c'est ça qui remet, qui donne de...
qui donne envie, en fait.
De la vie, ouais. De envie, ouais. Envie, être en vie.
Ouais. Et donc, d'élargir son regard à ce qui est positif de façon à vraiment entrer dans la confiance.
Voilà, alors, tout ça, on voit comment entrer dans un cercle, on peut dire, vertueux.
Vertueux, hein. Oui.
Vertueux, le cercle, l'opposé, ce serait le cercle...
Vicieux, ou en tout cas une spirale
d'enfermement, de mort,
une spirale
en fait.
De mort, de résignation, oui. Peut-être. Et puis le cercle vertueux, ça serait la confiance, le dynamisme, la vie, l'envie.
Parce que justement, ces cercles qui vont dans un sens ou dans un autre, mais toujours plus, où ils entraînent vers le bas.
Oui.
Ou alors, ce cercle vertueux,
il entraîne vers le haut
hein, ouais. Et vers la vie.
Ouais. Et ça, c'est à la fois pour chacun d'entre nous,
oui, oui.
Mais aussi à la fois au niveau social de nos groupes.
Oui, oui.
Alors, du groupe auquel on appartient, ça peut être pour la famille, pour la paroisse, pour la nation, pour l'humanité tout entière.
Tous les groupes humains, en fait.
Voilà, tous les groupes humains. Soit on va de l'avant, soit on se morfond
On s'enferme.
On s'enferme dans quelque chose de négatif.
Donc allons, entrons dans ce cercle vertueux de la confiance, à contre-courant du monde ambiant.
Eh oui.
Alors, ouais. Voilà.
Voilà, en tout cas de ce qu'on nous bombarde comme information, comme...
Oui,
comme nouvelle, voilà, on parle plus des chats écrasés sur la route que je sais pas quoi.
Que des belles choses qui se font, sans bruit.
Ouais.
Voilà, c'est malheureusement c'est comme ça. Et alors donc allons à contre-courant de tout ça. Et ce soir nous allons parler de la construction de la confiance en soi et de l'estime de soi peut-être. Pour retrouver
une énergie créative dont on a besoin à la fois individuellement et collectivement.
Oui.
Alors, quand on regarde confiance en soi, estime de soi, en fait, ça nous parle un peu d'une même réalité. En tout cas, de deux aspects d'une même réalité. D'abord, la confiance, ça concerne l'action posée. Donc, tout ce qu'on va faire.
Oui.
Et l'espérance qu'on a dans la réussite de ce qu'on va entreprendre. Et puis l'estime, ça concerne l'image de soi et l'amour qu'on se porte. Mais les deux sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Et quand on agit, on améliore notre image et notre image nous incite à avoir confiance. Enfin,
oui, c'est le cercle vertueux.
Oui.
Alors donc, on parlera, puisque ça se rejoint, de l'un et l'autre, finalement.
Voilà, on parle des deux d'une façon un peu différenciée, en sachant que quand il y en a un qui bouge, l'autre bouge avec.
Bon, voilà. Dans un sens comme dans l'autre.
Alors, dans le positif,
oui.
Comme dans le négatif, malheureusement. Mais...
Eh oui. Donc là, nous sommes toujours dans le temps de Noël et nos regards se portent vers le petit enfant fragile, et nous savons l'importance de l'enfance.
Oui, parce que toute l'image de soi, la confiance en soi, ça se construit dès le nourrisson, dès la toute petite enfance, puis ça continue après. Mais ça démarre dès la petite enfance dans ce qu'on appelle la sécurité de base.
La sécurité de base, oui.
Et il y a Winnicott qui était un pédiatre, qui est devenu après psychanalyste, donc qui, justement, par son premier métier, s'est beaucoup intéressé aux bébés. Il parle d'un environnement suffisamment bon pour que puisse se développer l'enfant d'une façon harmonieuse.
Oui.
C'est-à-dire que le bébé nourrisson, il a besoin d'être porté. Et même, par exemple, en autonomie, on présente, on porte l'enfant d'une certaine façon pour lui donner une sécurité de base. Par le siège, par exemple. Un enfant qu'on porte par le siège, il tient droit.
Mais
en même temps, il se sent porté, ça lui donne une colonne vertébrale et une portance, on appelle ça la portance. Un peu pour ceux qui ont vu Le Roi Lion. Dans Le Roi Lion, il y a cette image où on présente l'enfant, l'enfant lion, à tous les animaux, voilà, et le sorcier, le singe sorcier, ben, le porte comme ça.
Oui.
Voilà, c'est cette image de portance, de soutenir en quelque sorte
la vie qui est naissante et qui est fragile.
Et qui est fragile, mais en même temps qui est là. Et que si elle est soutenue, elle peut se manifester et grandir.
Voilà, c'est ça, oui.
Et c'est porté à la fois physiquement, mais aussi psychiquement.
Ça va ensemble.
Et puis, donc, il y a cet aspect de portance et tout l'aspect de maternage aussi, donc des soins, des caresses, voilà. Il y a ces deux aspects-là, il faut que ça soit suffisamment bon, à la fois physiquement et psychiquement, pour que l'enfant puisse grandir. Et il a aussi besoin d'être contenu. C'est-à-dire à la fois d'être contenu et que l'adulte puisse lui renvoyer un message de compréhension.
Alors, contenu, c'est-à-dire
contenu, c'est-à-dire que, par exemple, l'enfant, quand il est en colère, quand il est angoissé, il a besoin que l'adulte le comprenne et calme, contienne en quelque sorte cette angoisse en lui renvoyant une compréhension. Ben voilà, il pleure, la mère, elle va savoir s'il a faim, s'il faut le changer, s'il a mal au ventre, lui masser le ventre. Et c'est toute cette compréhension et cette contenance de l'adulte qui va faire qu'il va pouvoir, lui, apprendre lui-même à se contenir lui-même et à gérer ses propres affects.
Si ça n'existe pas, après on voit des adultes ou des adolescents qui sortent qui ne sont pas contenus.
Qui ont du mal à gérer leur affectivité, leur émotion, qui débordent.
Alors,
en même temps, il ne s'agit pas que ça soit parfait, parce que l'enfant a aussi besoin de la frustration.
Ah, voilà.
Parce que c'est là, à travers la frustration qu'il va grandir.
Oui.
Mais pour supporter cette frustration, il a besoin de toute cette contenance, de tout ce portage, de tout ce maternage.
C'est à gérer, c'est ça.
Oui, mais les parents le font naturellement, je crois. Il ne faut pas trop se poser de questions
sur
est-ce qu'on fait bien. On le fait un peu naturellement, par instinct.
Oui, mais vous parliez de frustration. Pour l'enfant, c'est bon aussi, dans une certaine mesure, parce que quand on parle de l'enfant roi, alors là, il n'y a plus de frustration.
Alors là, il n'y a pas de frustration, et du coup, l'enfant, il n'apprend pas à gérer la frustration qui est inévitable. Dans la vie, on a forcément des attentes, des choses qu'on ne peut pas avoir tout de suite, et si l'enfant roi n'apprend pas à gérer ses frustrations, et puis, au final, il devient tyrannique, parce que, justement, il ne supporte pas la frustration. Donc, à la fois, il faut de la frustration, mais qui se fait naturellement, parce que le biberon est trop chaud et qu'il faut que l'enfant attende, mais pendant ce temps-là, les parents contiennent l'enfant, calment sa colère en attendant que le biberon refroidisse un peu.
Et puis après, il se rend compte que, un peu de patience, quoi.
Voilà. Mais tout ça, ça participe à la sécurité de base.
Ah oui.
Et en autonomie, ça démarre même avant, ça démarre in utero, il y a tout le contact in utero qu'on peut faire en préparation prénatale, en préparation à l'accouchement, mais déjà dès que l'enfant commence à bouger, par exemple, on entre en contact avec, oui, par le toucher, et l'enfant répond. Donc, cette relation avec l'enfant, en fait, va participer à sa sécurité de base.
C'est le relationnel.
C'est le relationnel, mais un relationnel suffisamment bon.
Oui. Oui.
Ça ne veut pas dire grand-chose, suffisamment bon, mais en gros, c'est ce qui se passe pour 80% ou ça. Voilà. 90% des enfants.
Alors, on va y revenir dans quelques instants, mais... On comprend bien que cette sécurité de base est très importante. Hein. Ouais. Et quand elle manque, évidemment, c'est les adultes... Enfin, on peut rattraper les choses quand même.
On peut toujours rattraper les choses.
On va donc y revenir. Et je rappelle aussi, sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre. Comment démarrer l'année dans la confiance, hein. C'est notre thème pour redémarrer l'année. Avec Pascal Parinet pour nous guider ce soir. Alors, nous allons écouter, c'est Thierry Amiel et Marie-Jo Zarbe, Je regarde là-haut. Ben voilà une bonne façon aussi de, plutôt vers le haut que vers le bas. Hein.
Ouais.
Radio Notre-Dame.
On cherche tous son étoile, une bienveillante, et à part quelqu'un à qui on parle, qui nous éclaire le regard, une lueur qu'on retient, est-elle la même pour tout le monde, comme un destin commun? Je regarde là, s'il nous protège encore. Je regarde là, peut-il choisir encore? Je regarde le ciel. Symbole sans état d'âme, elle s'ignore même quand elle brille. Qu'on abuse de leur charme, tout existe ici. On prie la même étoile sans trop savoir si on partage le banal et le mal sur cette terre moins sage. Je regarde là, s'il nous protège encore. Je regarde là, peut-il choisir encore? Je regarde le ciel. S'il nous protège encore, je regarde là. Peut-il choisir encore? Je regarde le ciel et sa couleur est la même pour ceux qui ont de la peine. Les larmes sont éternelles. Les larmes sont éternelles.
Ce soir, en compagnie de Pascal Parinet, comment démarrer l'année dans la confiance? Alors, nous évoquions bien sûr les sécurités de base, hein, de combien c'est important, bien sûr, de partir sur de bonnes bases et combien l'enfant se construit, hein, sur.
Oui. À partir de cette sécurité de base qui commence in utero et dans les premiers mois du nourrisson. Mais on va faire un parallèle comme ça entre l'enfant, l'adulte.
Oui, oui, c'est ça.
Tout au long de cette émission. Et peut-être c'est un challenge qu'on a dans notre société de plus en plus individualiste, de construire un environnement suffisamment porteur et compréhensible pour chacun.
Oui.
On parle beaucoup de bienveillance, et le magazine Psychologie qu'on a fait une journée nationale, enfin nationale ou internationale, mais c'est voilà, quand c'est... même un magazine français. Et c'est vrai que dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus individualiste, où les choses vont vite, on a besoin d'être bienveillants les uns envers les autres.
Oui.
Et Jésus nous le disait déjà, aimez-vous les uns les autres.
Mais bien sûr.
Comme je vous ai aimé.
Ça va loin.
Ça, hein? Alors là, c'est peut-être plus difficile pour nous, mais en tout cas, déjà, si on faisait la moitié de la phrase, aimez-vous les uns les autres.
Oui. Ça, déjà, être bienveillant.
Être bienveillant, oui. Bienveillance et compréhension. On a besoin de comprendre le monde dans lequel on vit, et ça passe par le dialogue, par l'attention mutuelle. Par être attentif aux autres, à les écouter, à les comprendre, à faire l'effort de les comprendre. Mmh. Puis au niveau de la société, d'être informé des enjeux, de ne pas être dans le brouillard, de comprendre quelles sont les mesures qui sont prises, pourquoi elles sont prises, vers où ça va nous mener.
Voilà, de ce côté-là, c'est des fois un peu flou, hein.
Alors voilà, peut-être on a besoin d'être un peu éclairé. Voilà. Sur les décisions qui sont prises.
Oui.
En tout cas, d'avoir un programme pour savoir un peu où on va.
Oui.
Et puis, un environnement suffisamment bon, ça passe d'abord par la famille. Alors, déjà bébé, nourrisson, mais toute la vie, ça passe par la famille. Et notre époque est quand même celle de la dispersion des familles, à la fois géographique, parce que les gens bougent pour travailler. Il y a 50 ans, ils quittaient leur campagne pour aller à la ville.
Maintenant, ils vont au bout du monde.
Maintenant, ils vont à l'autre bout du monde. Donc, les familles sont de plus en plus dispersées géographiquement. Mmh. Et puis, structurellement aussi, avec les divorces, les familles recomposées. Mais la famille, ça reste quand même le premier environnement où on peut trouver un soutien.
Bien sûr, oui.
Et c'est quand on a une difficulté, quand on est malade, la première chose, c'est la famille qui est là pour nous soutenir.
Oui.
Donc ça c'est quand même le fondement de la société.
Oui.
Voilà, et donc c'est important d'être attentif aux liens familiaux et d'y favoriser la bienveillance, la compréhension et puis la solidarité.
Ça se tient, hein, en général.
Voilà. Et après, on peut aller comme ça de cercle de plus en plus large, dans nos groupes d'appartenance, dans la paroisse. Voilà. On dit la première église, c'est la famille, après c'est la paroisse, puis après c'est
différents groupes,
l'évêché, et puis l'église universelle. On peut voir la même chose, notre famille, les groupes d'appartenance, qu'ils soient religieux comme la paroisse ou laïque, comme, je sais pas, le club de sport ou notre travail.
Des cercles humains, des groupes d'appartenance.
De façon à construire un environnement à la fois bienveillant, porteur pour chacun et qui nous sécurise, qui nous donne une sécurité.
Voilà, on ne peut pas être comme ça, comme un oiseau sur la branche.
Non. Même si...
Même si...
on pourrait être comme un oiseau qui a confiance... qui va trouver ce dont il a besoin.
Voilà, c'est
mais
ça.
Même les oiseaux ne sont pas tout seuls sur la branche. Souvent, quand on regarde les oiseaux, ils sont en groupe.
En groupe, oui. Ils ont une appartenance aussi à une famille, leur famille d'oiseaux.
Ouais.
Donc ça montre qu'on est fait pour vivre de façon à la fois personnelle, mais communautaire.
Mais enfin, communautaire, parce qu'on est nous sommes des êtres de relation et on a besoin d'une famille et d'une communauté d'appartenance.
Relations.
Mais qui soit porteuse, compréhensive, ou en tout cas où on en comprend ce qui se joue, de façon à être en sécurité.
Voilà, donc construire un environnement compréhensif et porteur pour tous, à tous les niveaux, et ensuite alors
Et ensuite, ce qui est important, c'est de développer sa capacité à être seul. Et ça, la confiance en soi, elle est également influencée par l'apprentissage à être seul. On voit le petit enfant, il est d'abord en symbiose avec sa mère. Après, il passe par une phase où il va être plus en symbiose, mais avec la mère, c'est-à-dire toujours dans la même pièce, par exemple. Alors, il n'est plus dans la symbiose, mais il ne peut pas quitter la mère.
Oui, il est là à côté.
Et
oui.
Dès qu'elle change de pièce, ben, il va se mettre à pleurer parce qu'il va s'inquiéter. Et puis, à un moment, ben, il va pouvoir jouer tout seul.
Il devient autonome.
Il prend son autonomie. Donc, c'est la capacité à être seul.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose d'important dans la confiance en soi. Ce qui n'a rien à voir avec l'individualisme. Aujourd'hui, on est dans une société qui est plutôt dans l'individualisme que dans la capacité à être seul. Et en fait, cette capacité à être seul, c'est de pouvoir développer, d'assumer sa solitude, mais pour vivre l'altérité et pour pouvoir aller vers les autres. L'enfant, c'est quand il reste pas
dans les jupons de sa mère tout le temps.
Dans les jupons de sa mère, c'est pour aller voir des copains, c'est pour interagir avec le monde. Donc, c'est pas pour rester seul.
Non, mais
il faut pouvoir être seul pour aller vers l'autre.
Voilà. Donc un peu ce détachement, il ne faut pas rester fusionnel, quoi.
Voilà. Ce qui est en jeu à ce stade, c'est de se différencier pour être en relation, et non pas de rester dans la fusion.
D'accord.
Alors, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes seules, notamment à Paris, dans toutes les grandes villes. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais la solitude actuelle, elle relève plus de l'isolement que de cette capacité à être seul.
C'est une mauvaise solitude, donc
c'est
une mauvaise.
Voilà, c'est de l'isolement, c'est pas une solitude qui permet d'être en relation. Alors que, en fait, ce qu'il s'agit, c'est d'accepter d'être différencié. Autrement dit, de pas être fondu dans la masse. Mais de s'individualiser et de se connaître suffisamment pour pouvoir respecter sa propre identité face à toutes les propositions du monde moderne où là on essaye de nous uniformiser. Voilà, il suffit de se promener. Alors, quand on voyage un peu à l'étranger, on parlait de l'Inde, il n'y a pas...
Tout à l'heure.
Et quand on revient en France, on est tous en noir ou en gris. Il n'y a pas de couleur.
Oui.
On est tous avec un uniforme. Alors, on n'a pas tous le même vêtement, mais on a tous la même couleur de vêtements sombres.
Surtout l'hiver.
Voilà, surtout l'hiver. Voilà, il y a des pays où il y a de la couleur, par exemple. Ben, chacun se différencie. Alors, il y a des aspects de caste et tout ça derrière les couleurs, mais quand même, il y a une différenciation à travers la couleur que notre monde essaye, au contraire, d'uniformiser. Et
de faire une mode, pratiquement.
Et que ça devienne une mode, qu'on soit tous de la même couleur, avec les mêmes vêtements, avec... Voilà, donc c'est de pouvoir se différencier, mais aussi de respecter la différence chez les autres.
Hein. Mais oui, bien sûr, c'est dans les deux sens. Hein. Mm.
Voilà, ce qui permet aussi d'aller vers l'autre et d'être en relation. Mm. Et puis, au niveau social, peut-être de rompre l'isolement des personnes seules et de les aider à vivre leur solitude quand il n'y a pas d'autre possibilité, mais en tout cas, à vivre une solitude tout en étant en relation avec d'autres.
Il n'y a pas de coupure.
Que ce ne soit pas un isolement, mais une solitude. Ce n'est pas la même chose de vivre seul en étant en relation avec un réseau d'amis, avec...
Les appeler.
On n'est pas isolé, quoi. On n'est pas complètement seul.
Alors, donc, autre élément encore de construction de la confiance en soi.
Alors, c'est de développer son sentiment d'être capable. Ça, l'enfant le développe à travers la maîtrise de son corps, de ses gestes, notamment dans le jeu. Quand il joue, il apprend à construire des tours de cubes. Donc, il apprend à maîtriser ses gestes. Mmh. Et en faisant ça, il développe son sentiment d'être capable. Et puis c'est en même temps la période où il va s'affirmer, affirmer ses frontières. C'est toute la période, c'est à moi, c'est pas à toi. Donc à la fois, il maîtrise son corps, ses gestes, et il délimite en quelque sorte son territoire.
C'est ça, oui.
Alors...
Chez l'adulte, oui, puisqu'on compare un peu.
On retrouve ça aussi dans le fait d'agir. Finalement, c'est dans l'action qu'on développe son sentiment d'être capable. Alors, ça peut être dans différents domaines. Ça peut être dans le domaine familial, dans le bricolage, dans la cuisine, où on va se sentir capable d'amener des choses à sa famille. Ça peut être dans les loisirs, dans toutes les activités en commun, puis bien sûr dans son travail. Voilà, en travaillant, on développe aussi son sentiment d'être capable. Et tout ce qui est de l'ordre de l'action, finalement, permet de développer ce sentiment. C'est un peu la méthode des petits pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, d'agir, de faire des actions, même pas forcément très importantes, mais... Chaque action va développer le sentiment de capacité et du coup va développer la confiance en soi. Et puis l'autre aspect...
Un autre aspect encore, oui.
Oui, ça va être dans le fait de gérer ses émotions sans y renoncer, mais en les exprimant d'une façon adaptée.
Alors c'est-à-dire, on peut dire comment faire.
Ce qui veut dire d'accueillir, en tout cas d'apprendre à accueillir ses émotions, à les mettre en mots. Autrement dit, ni de les refouler, ni de les défouler.
Oui.
Hein? C'est les deux risques, c'est le refoulement, le défoulement.
Et voilà. Ça va ensemble alternativement, souvent, ça, non?
Alors, souvent, ça peut aller dans une alternance. Quand il y a trop de refoulement, à un moment,
ça explose
et il y a du défoulement.
Alors, ni l'un ni l'autre, et pour cela... Il s'agit donc d'accueillir ces émotions en mettant des mots, on prend une distance.
On prend une distance et on les élabore aussi.
Oui.
Hein? On n'est plus directement branché sur l'émotion, mais on prend cette distance qui permet de dire « je suis en colère et je suis en colère parce que, pour telle raison, enfin, ou je suis triste parce que... » Et donc, ça donne du sens à l'émotion. On n'est plus dans l'affect brut, mais dans quelque chose qui a du sens.
C'est-à-dire qu'on a on a pris conscience d'un sens. Quoi.
Oui, on a donné du sens à ce qu'on est en train de vivre.
Sinon, on reste dans quelque chose d'inconscient, pulsionnel, on peut dire.
Alors, oui, en tout cas, dans l'affect, alors pas forcément pulsionnel, mais dans quelque chose de brut, un peu de primaire.
Primaire, oui.
Voilà, et de donner du sens, on passe dans quelque chose de secondaire, de plus élaboré, qui permet de mieux gérer les choses.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener dans... dans notre société par rapport à l'action et à ce sentiment d'être capable.
Oui, je pense à la valeur du travail. Le travail, avant, c'était une valeur. Aujourd'hui, on a un peu déconnecté l'argent, le travail. Enfin, on a plus la notion du travail en rapport avec l'argent. Les deux sont un peu déconnectés, même s'il reste des liens diplôme-argent. Mais le diplôme, c'est pas forcément le travail. Et je crois que c'est important à aider les jeunes à comprendre que l'action et le travail sont source de satisfaction. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes voient le travail plus comme une contrainte, pas que des jeunes d'ailleurs, beaucoup de gens voient le travail comme une contrainte et non pas comme une source de satisfaction et de réalisation de soi. Alors, en même temps, on est dans une société où on propose l'assistanat quand il n'y a pas de travail. Et peut-être là, on a à réfléchir sur est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à proposer
d'assister
en échange d'un travail pour le bien commun.
Oui. Se sentir utile. Donc,
voilà. Pour sortir de la passivité. Et peut-être qu'à une époque, il y avait des emplois, je ne sais plus comment on appelait ça, mais un peu de bien commun, quoi.
Oui, oui, oui.
Voilà, qui permettaient au moins aux gens de se sentir utiles à la société et d'avoir l'impression de gagner.
Oui, c'est ça. C'est ça, autrement.
Et donc, ça redonnait une certaine dignité.
Bien sûr, dignité aux personnes qui sont, bien sûr. Et il y a cette perte autrement de la dignité humaine.
Voilà, quoi. Et puis une entrée dans une passivité où on attend l'argent, mais...
Oui, mais on perd le sens de tout, quoi.
De tout, et de l'argent, et de la valeur du travail, et de son action.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, comment démarrer l'année dans la confiance, c'est notre thème ce soir. Et je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. On écoute tout de suite Grégoire qui chante « Toi plus moi ».
Radio Notre-Dame.
Laissez faire l'insouciance à deux amis. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves. On peut partir, bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus celle, plus tous ceux qui sont seuls. C'est le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. rentrer dans la danse.
Grégoire, toi plus moi. Ben, ça fait déjà quelque chose, toi plus moi. Hein, c'est...
Oui, mais c'est... Voilà, c'est... Alors, puis d'entrer dans la danse de la vie.
Mais oui, mais oui. Alors, entrons dans la danse de la vie. Écoutons tout de suite, c'est Manuel qui appelle depuis le sud-est de
Oui, bonsoir Chantal, bonsoir père.
Père de famille, papa.
Papa, oui. J'entends, je crois que les gens, c'est pareil, on entend mal au téléphone, on n'entend pas grand-chose.
Ah, mais écoutez...
Oui, ça fait rien. J'ai appelé parce que j'ai une pension d'handicapé, enfin, j'ai pas tellement travaillé dans ma vie, puis je sens qu'il est temps que je m'élève, même spirituellement encore plus, et puis que je me sente utile, là. Peut-être qu'une paroisse, c'est bien, peut-être demander à une paroisse.
Tout à fait, oui. Alors, se sentir utile, il y a plein de choses à faire dans notre monde.
Manuel, vous allez éteindre votre radio parce que ça fait de l'écho et là on s'entend plus là. Hein.
Oui, tant pis.
Oui, alors vous éteignez votre radio et puis on va essayer de se faire entendre.
Voilà, parce que...
Bon, alors.
Parce que sinon je m'entends parler après l'avoir dit, donc.
Ah oui, d'accord, c'est parce que j'entends vraiment faiblement, c'est
d'accord.
Pour ça.
Bon, ben là, écoutez.
Voilà.
Oui, alors je disais, peut-être c'est une chose dont on peut parler un peu, c'est le service, ce qu'on appelle le service.
Le service, Manuel.
Ah oui.
C'est-à-dire de... Alors il y a des multitudes de services, il suffit de vous renseigner dans votre paroisse ou dans des associations. Après c'est suivant votre goût personnel et puis là où vous sentez que vous allez être bien. Mais voilà, il y a le service aux pauvres, à donner de la soupe en verre. Il y a le service aux personnes âgées, il y a d'amener la communion aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il y a, je crois, il y a autant de possibilités de service qu'il peut y avoir d'envie de servir.
Oh oui.
Donc c'est vraiment de sentir en vous vers quoi vous vous sentez plutôt appelé. Et d'en parler éventuellement dans votre paroisse ou s'il y a une association ou paroissiale ou autre, hein, d'ailleurs.
Oui.
Et voilà, et là on trouve notre utilité aussi dans le service. Il y a le travail est une chose, on a une utilité en travaillant dans la vie. Parfois les gens perdent un peu le lien en fonction du type de travail qu'ils font aussi, entre le travail qu'ils font pour une entreprise et l'utilité que ça peut avoir dans la société ou non. Parce que c'est, il n'y a pas une mesure directe. Hein. Un maçon, quand il construit un mur, au bout d'un certain temps, il voit le mur, il voit la maison, il sait ce qu'il a fait. Quand c'est quelqu'un qui est dans un bureau ou autre, peut-être qu'il a plus de mal à voir l'impact direct sur la société. Mais quand on fait un service pour les autres... Alors que ce soit les personnes âgées, les personnes malades, les pauvres...
Les personnes qui ont un besoin quelconque.
Oui,
hein,
oui dans tous les domaines qui peuvent exister. À ce moment-là, on a une mesure plus directe de son utilité et ça permet à la fois d'être heureux de pouvoir le faire. Parce que c'est d'abord une joie de pouvoir le faire.
Même les courses, une course à quelqu'un qui ne peut pas se dépasser. Ben oui, déplacer, oui.
Voilà.
C'est un service qu'on rend, oui.
Oui, sans chercher l'argent forcément, on donne une pièce s'ils volent, si les gens volent. Mais enfin, faire une course, c'est utile, ça fait du bien aux autres.
Ben oui, une personne qui ne peut pas se déplacer, par exemple, oui.
Mais... Ça va être chacun en fonction de ce qu'il vit. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas le temps parce qu'ils sont débordés par leur travail. Ben, ils vont, ils vont donner de l'argent à une organisation, ils auront, ils trouveront leur utilité comme ça. Ouais. Et puis d'autres, bah, ça va être de prendre le temps, de faire les courses à sa voisine qui est âgée et qui peut pas porter son sac. Vous voyez?
Oui.
Donc c'est, je crois qu'il n'y a pas de limite au service.
Ah ouais. Oui. Et puis aussi pour avoir un père spirituel, ça me manque beaucoup, ça, ouais. J'en ai pas.
Voilà, alors ça, il faut demander à votre paroisse et ils pourront vous orienter.
Bah, Manuel.
Merci beaucoup. Et puis, que je vous souhaite bonne année à tous les deux, à tout le monde.
Ben voilà, à tout le monde. Voilà. Hein, on se souhaite le meilleur.
Ah oui, moi aussi.
Et de trouver l'utilité, son utilité, voilà.
Ah oui, au revoir.
Au revoir, Manuel. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Donc voilà, eh bien, c'est ce qu'on disait juste avant la pause musicale. Hein, voilà, il y a de multiples façons
de trouver son sentiment d'être capable aussi, qu'à travers le service, voilà. C'est un peu ce que je disais pour certaines personnes dans leur travail, ils sont un peu déconnectés entre le résultat et leur travail. Donc, ils perdent un peu le sens. Mais dans le service, on voit, alors pas toujours immédiatement, hein, parfois ça demande du temps, mais en tout cas, on retrouve cette utilité et surtout ce sentiment d'être capable, d'être capable de faire quelque chose pour les autres. Et en faisant pour les autres, on fait aussi pour soi-même, parce qu'on se construit aussi en aidant les autres.
Bien sûr. Donc, voilà, c'est un élément encore. Mais je pensais, alors là, c'est bon, le grand, le savant, Xavier Le Pichon, qui était au Collège de France, lui, c'était, il y a une utilité, évidemment, mais il était trop dans son intellect, selon lui, et il est allé rendre service à Mère Teresa.
Ouais.
Hein, et de là, il était sur le terrain, donc c'était... Et de là, il est rentré chez Jean Vanier.
Ouais.
Donc là, ce service, une façon complémentaire, par exemple, par rapport à être trop dans l'intellect, de pouvoir rentrer dans une autre dimension qui équilibre.
Ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à tout quitter.
Bien sûr, oui.
Mais en tout cas, peut-être d'équilibrer les deux quand il y a un travail qui est très intellectuel où on voit pas les fruits immédiatement. Parfois, quand c'est dans la recherche ou autre, avant que ça devienne une réalisation, ça passe par tout un tas de phases. Voilà, de trouver un lieu où on peut trouver aussi quelque chose de plus immédiat. Alors, chez Mère Teresa, mais tout le monde n'est pas appelé à ça.
Mais
en tout cas, d'aller donner la soupe dans sa paroisse ou au Resto du Cœur ou je sais pas où. Des choses comme ça où on voit... immédiatement, il y a un retour immédiat en fait entre l'action et ce qu'on est en train de faire. On en voit le résultat immédiatement.
Mmh.
Et ça développe vraiment un sentiment d'être capable, d'être utile.
Et puis du relationnel aussi.
Du relationnel.
Parce qu'il y a des travaux justement, même dans la recherche, où on est un peu isolé quelque part.
Et parfois où c'est très abstrait. Donc c'est pas très en contact avec la réalité quotidienne.
Donc ça équilibre, justement. Voilà, c'était un exemple comme cela. Alors, peut-être autre élément encore de construction de la confiance de soi, puisqu'on a parlé de différents éléments.
Du sentiment d'être capable
à l'instant, oui.
L'autre sentiment, c'est le sentiment d'être intéressant. Et ça, l'enfant le construit dans l'amour qu'il va recevoir. C'est parce qu'il se sent aimé qu'à son tour, il va pouvoir aimer d'abord. Mais aussi, c'est à travers l'image qui lui est renvoyée qu'il va pouvoir s'aimer lui-même. Et en s'aimant lui-même, se sentir intéressant.
Oui.
En tout cas, comme ayant de la valeur pour les autres.
digne d'être aimé, enfin, ce sentiment voilà. de...
Et du coup, ça, c'est très en lien avec prendre sa place.
Oui. Hein.
C'est parce qu'il se sent digne d'être aimé et donc intéressant. Hein. Les deux sont un peu liés.
Donc, être dans la vie, à une certaine voilà, place, là, la sienne.
Et de prendre sa place. Et quand on écoute les adultes, on est surpris de voir combien de personnes se trouvent inintéressantes, pensent qu'elles n'ont rien à dire, par exemple, ou que tout ce que les autres disent est plus intéressant que ce qu'elles-mêmes pourraient dire. Et donc, avec ce sentiment, il y a en lien une faible estime de soi. Et du coup, les personnes se mettent souvent en retrait et se sentent pas très aimées, voire parfois, quand ils sont très en retrait, se sentent rejetées. Mmh. Et donc, je crois que la première chose, peut-être pour cette nouvelle année, c'est de sortir de cette croyance
oui.
qu'on n'a rien d'intéressant à dire ou qu'on n'est pas intéressant, de rejeter cette croyance et de découvrir sa propre valeur, et que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a à dire, ben c'est aussi intéressant que ce que les autres ont à dire. Voilà. Alors, bien sûr, après, chacun va s'exprimer en fonction de ses centres d'intérêt, de sa culture, de son métier, de ce qu'il est.
C'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement.
Voilà. Mais ça enrichit, on s'enrichit les uns les autres. Alors, il y a à l'époque de la croissance du Japon, ça commence à dater, peut-être pas une cinquantaine d'années, mais en tout cas, ils avaient compris ça. C'est quand ils emmenaient, donc au tout début de leur croissance, quand ils venaient visiter les pays européens ou les usines ou l'industrie européenne, en fait, ils amenaient tout le monde, c'est-à-dire de l'ouvrier
oui.
au PDG. Alors, il y a le PDG, les cadres supérieurs, les ingénieurs, les agents de maîtrise, les techniciens et les ouvriers.
Tout, à tous les échelons.
Ils emmenaient visiter les pays européens et l'industrie européenne avec tous les gens de tous les échelons et chacun y ramenait quelque chose de son niveau, de sa spécialité.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'ils sont devenus une puissance économique très importante. Parce que, l'ingénieur, il voyait certaines choses, mais l'ouvrier qui est, lui, habitué à travailler plus concrètement...
Il voyait autre chose sur le terrain.
Et comme ça, ils arrivaient à construire une vue d'ensemble. Mais tout ça pour dire que, quelle que soit sa place dans la société, on a des choses intéressantes à apporter aux autres.
Bien sûr. Par exemple, à l'ensemble.
Oui.
Non, on peut dire des fois, quand on voit dans une ville, une grande ville, des transformations, on a l'impression que ça n'a pas forcément été pensé, ou ça a été pensé, mais pas vu sur le terrain.
Alors, parfois ça arrive, mais on se dit... on se dit qu'il y a des gens qui sont un peu déconnectés de la réalité du terrain.
On devrait prendre exemple sur les Japonais d'il y a quelques années, leur façon de faire.
En tout cas, consulter tous les niveaux. Ça rejoint aussi tout ce que dit Jean Vanier par rapport aux handicapés. Qu'on apprend autant d'eux que peut leur apporter finalement, et peut-être qu'on apprend plus d'eux que ce qu'on leur apporte.
Que les valeurs du cœur, ça c'est sûr, ils les ont d'une façon...
Tout ça pour dire que chaque personne est intéressante et qu'elle a sa place qui lui permet aussi d'apprendre aux autres et on peut s'enrichir mutuellement comme ça.
Grand merci Pascal Parinet. Donc comment démarrer l'année dans la confiance? Pour nous rejoindre, 01 56 2 fois 44 00.
Vivez le temps de Noël sur Radio Notre-Dame.
Parole d'évêque. Tous les jours, un évêque différent répond aux questions de la rédaction de Radio Notre-Dame à 10h03 et 20h28. Actualité, vie de l'Église, la vie du diocèse décryptée par un évêque d'Île-de-France. Parole d'évêque, c'est tous les jours à 10h03 et 20h28 sur Radio Notre-Dame.
Chant, musique et liturgie. Tous les dimanches à 7h, une émission proposée par Charles-Éric Hoguel. Pour nous écouter, pour nous réécouter, rendez-vous sur le www.radionotredame.com.
Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, pour redémarrer, pour démarrer l'année dans la confiance, et bien en compagnie ce soir de Pascal Parinet, qui nous guide un peu dans ce sillage, et nous vous invitons à nous rejoindre au 01 56 2 fois 44 00. Alors Pascal Parinet, qui n'est pas prêtre. On n'invite pas que des prêtres.
Peut-être que j'ai une voix de prêtre.
Ah, mais... écoutez, voilà.
je ne suis pas prêtre.
Voilà, c'est une autre discipline. Vous êtes, vous êtes père, mais de famille.
Voilà.
Voilà, père de famille.
Et je suis psychanalyste et gestalt-thérapeute.
Voilà, exactement. Et donc là, je suppose que pour redémarrer, vous avez chez votre institut de formation psychrétienne, des stages ou des choses pour nous aider à entrer dans la confiance, non?
Oui, alors on a un stage, parce qu'on a modifié notre programme, là, donc je n'ai pas tout à fait en tête. On a un stage en début d'année qui doit être en février ou en mars sur l'affirmation de soi, mais ça va avec la confiance. Après, en juin, sur la gestion des émotions et en juillet, sur la confiance en soi.
Voilà, on aura le temps d'en reparler d'ici le mois de juillet.
Voilà.
Donc, peut-être le téléphone pour trouver les coordonnées.
Alors, le téléphone de mémoire, c'est le 06 60 15 79 60.
06 60 15 79 60.
Sinon, vous tapez psychrétien sur Internet et...
Psychrétien en un seul mot.
Voilà.
.com.
singulier.com.
Voilà, donc...
et vous retrouverez tous les stages avec les dates.
Alors, donc, nous vous invitons à nous rejoindre au 01 56 2 fois 44 00 et nous avons... en ligne, Daniel, qui nous appelle depuis, je pense, l'est de la France. Daniel, bonsoir.
C'est ça, bonsoir Chantal, bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Voilà, de quel endroit vous êtes ?
Thionville.
Thionville.
Voilà, je vous ai déjà téléphoné deux fois, alors j'ai un beau témoignage à vous faire. Là.
Ah bon, voilà. Thionville, et vous écoutez par le biais de Radio Jéricho ?
C'est ça.
Voilà. Voilà, c'est ça la COFRAC, hein, parce que pour les auditeurs, c'est on est une radio différente, chrétienne. Et avec des programmes à la fois communs et différents, et là, c'est un programme commun. Alors donc, Daniel qui nous appelait, parce que des fois on ne sait pas, les auditeurs ne savent pas trop, ce que c'est que la COFRAC, Communauté francophone des radios chrétiennes. Donc Daniel nous appelle de Thionville, et est en lien avec nous à travers sa radio chrétienne, c'est-à-dire Radio Jéricho. Alors Daniel, dites-nous.
Alors, je vous avais téléphoné une fois, Chantal, avec c'était le mercredi avec le père Guy Gilbert.
Oui.
On avait parlé du référendum sur la poste, parce que j'étais le papa du référendum national sur la poste, hein.
Oui.
Où il y avait eu 2 300 000 personnes. Je vous explique pourquoi je vous parle de tout ça après. Hein.
Oui.
Voilà, donc, donc je suis quelqu'un de très militant. Et ensuite, je vous avais rappelé une fois, j'étais désespéré parce que j'avais perdu mon travail. J'avais été licencié pendant la crise.
Oui, oui.
Et j'avais demandé qu'on prie pour moi, à Radio Jéricho. J'ai demandé qu'il y ait des amis qui prient pour moi, donc un peu partout. C'était vraiment un désespoir. Hein. Je me retrouvais sans travail, pour moi c'était la catastrophe. Et on avait prié pour que je retrouve un travail à côté de chez moi, vraiment juste à côté de chez moi, hein, ce que j'avais demandé, parce que j'avais pas de voiture, et avec un nouvel appartement.
Mm-hmm.
Bah, écoutez, j'ai été exaucé très rapidement, parce que j'ai trouvé une place de concierge juste à côté de chez moi.
Bah, dis donc, oui.
Avec un nouvel appartement, puisque je loge justement...
sur le lieu même.
Dans cet appartement, voilà. Et je me souviens qu'il y avait une sœur qui vous avait téléphoné juste après, parce que j'avais continué à écouter la radio, mm-hmm. et qui avait dit, voilà, vous inquiétez pas, Daniel, je vais prier pour vous. Et voilà, je voudrais, je la connais pas, cette sœur, mais si elle écoute encore, voilà, ben, je voudrais la remercier, parce que je pense vraiment qu'il y a eu un miracle.
Ben voilà, hein, rendons grâce, et on voit que les choses, être dans la confiance, hein, vous êtes aidé, être dans la confiance, et...
Voilà, et je dis aux chômeurs de surtout, faut pas lâcher les bras, et puis prier, quoi, il y a des miracles, hein, il y a vraiment des choses qui se passent dans la vie, quand on le demande, quoi.
Là, vous en témoignez, là. Alors, vous êtes militant, vous.
Voilà, moi, je suis militant, j'étais le papa du référendum sur la poste, et... Quand je vous avais appelé pour le chômage, après on avait discuté avec le prêtre, il voyait que j'étais un peu désespéré, un peu beaucoup même. Et puis je lui avais dit que je m'engageais auprès des chômeurs quand même, parce que dans ma rage, j'avais monté un mouvement pour les chômeurs qui s'appelait la ligne Covid de Philadelphie, qui avait fait le buzz d'ailleurs à Canal+, où on a donc c'était une ligne de bus, on attendait l'emploi qui passait jamais, hein.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et on avait fait le buzz avec mes amis qui étaient chômeurs. J'avais réussi à créer toute une petite équipe autour de moi. Où on avait créé Peuple Emploi. On a convoqué tous les candidats à l'élection présidentielle. Et ils sont venus comme des chômeurs, vous savez. Et on leur a parlé de chômage. Hein. Et puis il y a eu cette histoire avec Jean-Luc Mélenchon et puis le Petit Journal. Donc on avait fait le buzz et ça avait cartonné sur Internet. Bref. Ben alors...
Vous voyez, voilà, comme quoi, quand on a des initiatives...
Voilà, maintenant, la ligne Covid Philadelphie n'existe plus, hein, c'est fini, c'était vraiment pour dénoncer le chômage à un moment donné. Hein,
mm-hmm.
Voilà. Et pourquoi j'en viens là, parce que vous m'avez interpellé, monsieur Pascal, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé, voilà, il y a un risque dans l'assistanat, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, il faut que les gens retrouvent une valeur, hein, avec le travail et tout ça. Et moi, le chômage, ça m'a tellement travaillé à un moment donné que là, je milite pour le revenu de base. C'est ce qui va se passer donc en Suisse. Hein, ils vont voter. Je ne sais pas si les auditeurs savent ce que c'est que le revenu de base. Il y a l'initiative européenne pour le revenu de base où il faudrait 1 million de signatures avant le 14 janvier pour que ça soit discuté au Parlement européen qui avait donné son accord pour en discuter, s'il y avait 1 million de signatures. Hein. Donc le revenu de base, ça serait, c'est pour en finir avec le chômage de masse. Tout le monde toucherait, c'est encore une utopie, hein, bien sûr, tout le monde toucherait une certaine somme d'argent, et puis ensuite, vous iriez travailler si vous voulez, mais ça serait le droit de vivre, voilà. Moi, je pense que le risque, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une bonne intention, hein, et pourtant je lutte pour, mais je me pose beaucoup de questions, parce que bon, il y a peut-être des gens qui voudraient plus travailler, alors que... C'est pas ça le but, c'est de dépasser le travail pour arriver à une activité, à faire ce qu'on veut. C'est une libération, vous voyez ce que je veux dire?
Avoir une base pour pouvoir après...
Sécurité
pour...
Voilà, oui. Alors je voudrais savoir ce qu'en pense M. Pascal, j'ai pas retenu son nom.
Pascal Parinet.
Monsieur Parinet, voilà, qu'est-ce qu'il en pense? Moi c'est vraiment pour une réflexion philosophique, hein, pour moi-même. Est-ce que vous voyez un risque? Je sais pas.
Si vous voulez, on est pris entre deux contraintes ou deux souhaits. D'un côté, on ne peut pas laisser des gens dans la misère, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. De laisser des gens sans ressources et sans possibilité de vivre. Ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, de ne pas les mettre dans l'assistanat. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Et je pense que pour nos politiques, ça doit être un sacré casse-tête. Mais moi, je serais assez partisan de proposer après, on va dire, ça prend des emplois à d'autres. C'est là où c'est compliqué. Je pense qu'il faut avoir une vision globale. Et pour ça, c'est vraiment les gens qui gèrent, qui peuvent voir comment faire. Mais proposer des travaux d'intérêt collectif, au moins un minimum en échange d'un salaire minimum vital. Vous voyez que ça soit pas que ça tombe pas du ciel en quelque sorte
qu'il y a un service rendu
hein. Donc, ok, moi je vais dire parce que comme je fais partie des gens qui s'occupent qui défendent ça hein, je vais reporter ce que vous venez de me dire hein. C'est intéressant.
Mais vous voyez, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ça, vous?
Ça m'a interpellé, parce qu'à un moment donné, j'étais pas d'accord avec ça, parce que on avait tellement traité les chômeurs de feignants, alors qu'il y en a de plus en plus, que ça me touchait. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était avec l'affaire Wauquiez, hein. Et ce qu'ils voulaient faire travailler les gens qui étaient au RSA une semaine. Enfin, je sais plus, peut-être pas une semaine, je me souviens plus exactement. Et ça m'avait choqué. Je peux comprendre que ça a choqué certaines personnes, comme ça a été dit.
Voilà.
Mais la façon dont vous le dites...
Il ne s'agit pas de fainéantise, il ne s'agit pas de les... Déjà, ce n'est pas facile d'être au chômage, il ne s'agit pas de...
Les écraser
encore plus.
Voilà, oui. Mais vous avez raison. Hein,
mais je pense redonner... que... C'est de leur redonner déjà le sentiment de pouvoir agir. Et non pas d'être passif face à la situation, à la société. C'est vraiment de leur redonner un sentiment de pouvoir agir. Je sais que ça s'est fait, alors j'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est pour des jeunes qui touchaient des allocations, ou je ne sais plus trop quoi, dans une commune. Donc c'est une commune qui subventionnait en fait des jeunes ou des Roms. Enfin, je ne sais plus trop. Peut-être c'était avec des Roms. Et qui en échange ont demandé des travaux collectifs. C'était pas beaucoup d'heures. Vous voyez, c'est pas une question de on vous donne temps, vous rendez temps. C'était plus,
participer,
voilà, oui. qu'il y ait une participation et que la personne d'abord n'a pas l'impression de dépendre, d'être dans la dépendance, et puis quel est le sentiment, un sentiment de dignité. Alors bien sûr, il n'y a pas forcément le rapport entre le travail fourni et...
Bien sûr,
ouais. En tout cas, le sentiment de faire quelque chose, quoi. Vous voyez ?
Et d'être utile, enfin, un échange de services,
voilà,
qui rendent la dignité à la personne.
Qui rendent la dignité à la personne.
C'est tout à fait le contraire, quoi. Oui.
Écoutez, moi, c'est vraiment très bien ce que vous me dites, hein. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, hein. Parce que je me pose beaucoup de questions, c'est bien d'en s'engager dans un combat, parce que le chômage m'a terrifié à un moment donné. Et comme je le disais, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc ce que vous dites, je veux vraiment le prendre en compte et essayer d'avancer à ce que vous me dites, parce que voilà. Je vais en discuter avec les gens avec qui je travaille. Voilà.
Je crois que c'est important pour les jeunes.
Oui.
Peut-être plus pour les jeunes. Les générations plus âgées ont connu le travail, ont connu le plein emploi, ou à peu près. Quoi.
Ils savent ce que c'est que
les
gens travailler.
Les 40 à 60 ans, ils ont connu le plein emploi, ils savent ce que c'est que travailler. Et puis ils ont pas eu les facilités familiales des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ils ont tout immédiatement. Alors plus ou moins, hein, mais quand même, ils ont plus tellement cette notion de voilà, de gagner leur vie.
De faire un effort, peut-être.
De faire un effort, de s'engager aussi.
Oui, d'engagement.
D'engagement dans la
ça
vie.
Ça devient aussi de l'individualisme.
Alors, ça devient de l'individualisme. Mais,
et ça ne construit pas la personne. Hein.
Mais souvent, moi, j'entends beaucoup de jeunes, il y a un peu le sentiment que les choses leur sont dues. Parce qu'ils ont été habitués à recevoir. Et peut-être plus à recevoir qu'à donner de leur personne. Et les choses ne leur sont pas dues, en fait. Ils ont aussi à participer.
Ben oui.
Vous voyez ? Et c'est dans ce sens-là.
Vous comprenez, Daniel, ça ?
Oui. C'est vraiment très intéressant ce qu'il dit. Hein.
Oui.
Moi, ça me fait avancer. Hein. C'est,
oui, c'est
quelqu'un
dans
de
sens...
très philosophique. Hein,
voilà.
C'est dans ce sens-là qu'il faut voir.
Après, sur le plan pratique, je pense que c'est un casse-tête. Mais,
c'est-à-dire voir c'est, comment, mais voilà, c'est au cas par cas et les situations, alors, les personnes.
Et je pense que c'est il y a quelque chose à faire. Alors je sais pas parce que entre au niveau gouvernemental et au niveau des communautés locales, parce que ça ne peut passer que par le local, vous voyez.
Sur le voilà, c'est ça, c'est les petites communautés
terrain,
de base, oui. Et voir un peu sur le terrain chacun dans son lieu, hein. C'est les besoins ne sont pas les mêmes dans un lieu et un autre. Voilà, donc.
Merci pour tout, hein. C'est vraiment passionnant ce que vous racontez, voilà.
Merci à vous d'être
à vous
ce militant qui vous engagez, qui est dans l'action, mais une action éclairée, hein. Qui désirez une action éclairée. On souhaite beaucoup de personnes comme vous, voilà.
Merci Chantal, merci Pascal. Hein.
Merci Daniel.
Bonne année encore à vous tous.
À vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, ça fait du bien d'entendre cela aussi, hein, ça.
Il faut des militants. C'est important qu'il y ait des personnes militantes.
Voilà, et justement, c'est là où se partage entre une réflexion, comment il y a ceux qui sont vraiment, qui veulent, mais qui se posent la question, comme Daniel, est-ce que c'est... Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc comment faire ?
Alors, je ne sais pas, ça peut passer par le tissu associatif, ça peut passer par les communes.
Oui.
Enfin, il y a sûrement des possibilités, mais en tout cas, de permettre aux gens... De donner aussi, qu'ils reçoivent, et je pense que c'est important, on ne peut pas laisser des personnes mourir de faim.
Bien sûr, il y a une base, donc, là, c'était...
Voilà, ça c'est quelque chose d'important et primordial, et on doit être solidaires, mais aussi qu'ils aient eux aussi la possibilité de donner et participer à la construction de la société.
Des deux côtés, parce que ça n'est bon ni pour d'un côté ni de l'autre. Oui. Si c'est tout d'un côté ni de l'autre, il faut cet équilibre, cette rencontre, où chacun va pouvoir... c'est un échange, non pas donnant, mais d'être dans le bain de la vie.
Oui.
En fait.
Alors après, sûrement que c'est très complexe à mettre en place, à organiser, et il y a sûrement des gens beaucoup plus compétents que nous.
Voilà, donc là, c'est d'autres qui, comme là Daniel, qui peut voir comment on peut répercuter ça, en tout cas dans son lieu, hein, dans sa région. Donc on va poursuivre un petit peu, Pascal Parinet, puisque c'est comment démarrer dans la confiance cette année. Autre élément encore, hein,
important. Oui, on a parlé du sentiment d'être intéressant. Voilà, et maintenant il y a le sentiment d'être compétent.
Oui.
Alors ça se développe chez l'enfant à travers tous les apprentissages, y compris scolaires. Mais ça se construit aussi dans l'apprentissage de la vie en société, des règles de la société. Donc ça se cantonne pas aux apprentissages scolaires,
l'apprentissage de la vie.
L'apprentissage de la vie.
Et de la vie en société.
Pour ça, l'enfant, il a besoin d'abord de se sentir aimé pour être en confiance.
C'est la base, oui. Hein.
Et même s'il fait des erreurs... Et ça, de savoir que l'erreur, c'est possible, qu'il a droit à l'erreur, et que c'est parfois on apprend aussi à travers ses erreurs. Et pour ça, il a besoin d'une certaine justice aussi, et de règles assez claires pas trop de règles, faut pas que ça lui embrouille l'esprit, mais que ça soit bien clair, peu de règles, mais assez, assez clair pour qu'il puisse ça les comprendre.
Cadré quand même, oui.
Ouais. Alors, chez l'adulte, ça va se transformer, se renforcer à travers deux aspects. D'abord, l'intérêt que l'adulte porte à ses activités, alors qu'elles soient de loisirs, de travail, de bricolage ou autre. Mais aussi par la connaissance de ce qu'on appelait avant, je ne sais pas si ça se dit encore, les règles de l'art. Avant, entreprise, dans chaque métier, il y avait les règles de l'art.
On considérait les métiers comme un art.
Et
ce qui est une autre façon de voir les choses.
Étaient considérés comme un art. Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une société de procédures. Alors les règles de l'art, là-dedans, je ne sais plus trop où elles sont. Mais peut-être à remettre ça au goût aussi. Alors derrière les règles de l'art, il y avait toute la conscience professionnelle, la conscience du travail bien fait, l'amour du travail aussi. Il y avait tout ça.
Qui est à retrouver finalement.
Oui.
Parce que ça construit la personne, ça.
Voilà, ça l'a construit et ça a développé aussi son sentiment d'être compétent.
Compétent et utile.
Utile.
Donc c'est pour ça, Daniel aussi, voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là où ça peut apporter de l'eau à son moulin.
Voilà. Et peut-être, alors je ne sais pas, redévelopper ce goût des règles de l'art dans chaque métier, non pas de suivre une procédure à la lettre. Alors bon, on est obligé par les normes, par tout ça, mais quand même, de remettre un peu en valeur ces règles de l'art.
Je pensais à Pasteur. Pasteur, Pasteur, hein, quand il allait à l'Institut travailler, il rencontrait toujours celui qui balayait la rue, et donc il parlait avec lui, et il lui disait simplement, nous faisons le même métier, nous mettons de l'hygiène, il n'a jamais su qui était ce monsieur, il l'a su qu'au moment des funérailles de Pasteur, qui était, et il considérait, c'est ça les règles de l'art, il participait au même art de l'hygiène, de la société, chacun à son niveau. Mais c'était, ils vivaient les choses chacun dans la règle de l'art. On va se retrouver dans quelques instants.
Parce que la musique ouvre les portes de l'âme, le père Claude Olivier nous mène à la baguette et nous emmène tous les lundis et mercredis à 16h dans un voyage intérieur pour explorer avec lui les trésors de la musique sacrée. Les grandes heures de la musique sacrée, tous les lundis et mercredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Histoire d'en parler.
Depuis 2 ans, je vais revivre pour vous les grandes figures de l'histoire spirituelle de la France, de Saint-François de Sales, Bossuet, Fénelon, jusqu'à Chateaubriand et Victor Hugo. Pour cette saison, je vous donne rendez-vous pour partir à la découverte de Léon Blois, de Charles Péguy, de Paul Claudel et de beaucoup d'autres moins connus qui tous, humbles ou fervents, prêtres, écrivains, philosophes, polémistes ont dans la lumière de la foi participé à la grande histoire de la pensée au service de la beauté et de la vérité.
Histoire d'en parler avec Jean-Paul Clément, tous les jeudis à 21h30 sur Radio Notre-Dame.
Tous les dimanches, entrez dans les plus grands monastères et joignez-vous à la prière séculaire des moines. Dimanche grégorien avec Pierre Loiret, tous les dimanches à 6h. Sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, donc ce soir avec Pascal Parinet, nous évoquons la confiance, démarrer dans la confiance cette année. Alors on peut voir peut-être comment retrouver
oui.
la confiance en soi lorsqu'on en manque ou qu'on l'a perdu peut-être.
Oui, parce que, alors, globalement, plus ça s'est bien passé dans l'enfance et dans toutes ces étapes un peu qu'on a vues,
oui.
Plus c'est facile pour l'adulte de se faire confiance.
Oui, ça se comprend, oui.
Et sinon, bah, il a dans la vie adulte à la construire. Voilà, mais quand, on pourra dire quand il y a une insécurité chronique.
Mais oui, c'est ça, et aujourd'hui,
ou intense, hein, parfois, ça oui. peut être très intense. Alors, soit parce chronique, parce qu'elle dure depuis très longtemps, ou intense suite à un événement qui est vécu un peu comme un traumatisme. Ça peut être, par exemple, la perte d'un emploi.
Bah, ça met on l'a vu dans, avec Daniel voilà, tout à l'heure.
Ça
hein,
met
hein.
dans l'insécurité.
Il a su rebondir aussi. Hein,
voilà. Ou quand ça s'associe à d'autres troubles, par exemple phobiques, obsessionnels, alimentaires, dépressifs. Donc quand la confiance est associée à d'autres problématiques oui. psychologiques. Alors dans tous ces cas-là, il est nécessaire d'entreprendre une psychothérapie ou un travail sur soi pour reconstruire à la base. Mais pour la majorité des personnes, on pourrait dire, peut-être la première des choses pour retrouver la confiance, c'est de se poser de la question et de quel est son idéal et de redécouvrir ou de découvrir son idéal.
Oui.
Autrement dit, ce que la personne aimerait être, idéalement, et... De se poser la question des modèles qui ont influencé cet idéal. Voilà, est-ce qu'il n'est pas trop exigeant? Est-ce que je ne cherche pas à atteindre quelque chose de parfait, de trop idéaliste et d'inatteignable? Parce que très souvent, la contrainte de perfection risque d'induire un sentiment de ne pas être à la hauteur. Et quand on court après la perfection, ben, c'est inévitable d'être en échec puisque la perfection n'existe pas pour nous sur Terre en tant qu'être humain. Hein? Donc, si on a un idéal qui est trop élevé ou trop parfait, à ce moment-là, petit à petit, on se sentira pas à la hauteur et on perdra confiance en soi. Donc c'est important d'évaluer quel est son idéal pour le rendre un peu plus réaliste. Un idéal, c'est quelque chose de positif, ça donne une direction. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'atteindre. Ça veut dire qu'on a la direction du chemin à prendre.
Voilà.
Voilà. Et quand il est trop élevé, ben, faut accepter de descendre un peu la barre. C'est un peu comme si on voulait faire du saut en hauteur et qu'on mettait la barre à 3 mètres, ben, on risque pas d'y arriver. On commence, dans mes souvenirs d'école, on commençait à 50 cm et puis on montait de 10 cm en 10 cm.
Puis il y a que les bons, certains qui atteignent, mais.
Voilà.
C'est pas tout le monde, hein. C'est un sportif chevronné qui s'entraîne en plus.
Voilà, alors ça demande aussi un entraînement et de l'action. Pour le coup, oui. C'est là où l'action permet aussi d'améliorer la confiance et d'améliorer ses performances.
Oui. Voilà. Là aussi, là, c'est vrai que pour des jeunes qui sont... Le sport aussi, ça peut être une éducation oui. aussi à l'effort.
Alors, peut-être d'ailleurs, ça sera une réponse
à Daniel.
C'est peut-être pas forcément un travail, ça peut être une activité sportive ou une activité éducative ou de formation.
Oui, la personne va se faire des efforts et se dépasser.
Voilà, quelque chose où la personne... à un engagement finalement, à participer à quelque chose pour le collectif. Alors ça peut être un travail pour la collectivité, mais ça peut être du sport, et à ce moment-là pour un collectif d'équipe. Ça peut être une formation alors qui lui servira personnellement, mais aussi qui participera à intégrer la société, à trouver un travail et à servir à la globalité de la société. Donc peut-être il y a toutes ces pistes à réfléchir, d'ouvrir un peu. C'est peut-être pas une somme, un travail, ça peut être une somme, un engagement.
Bien sûr.
Surtout qu'on a retiré finalement le service militaire. Alors il y a le service civique qui est du bénévolat. Peut-être c'est quelque chose de l'ordre d'un service civique. À penser. Je ne sais pas, il faut réfléchir et puis trouver des nouvelles idées pour les jeunes, pour les permettre de s'intégrer plus facilement dans la société.
Apprendre à secourir, je ne sais pas, il y a des formations.
Peut-être il y a plein de choses à penser et que les personnes de terrain auraient sans doute plein d'idées de comment faire.
Et chacun dans son domaine.
Oui.
Alors voilà, donc découvrir un idéal et
accepter,
être assez réaliste pour...
Et au besoin, le rendre plus réaliste s'il est un peu trop élevé. D'accepter ses limites aussi, parce que tout le monde a des limites. Alors il s'agit à la fois d'en être conscient et de les reconnaître.
Oui.
Mais en même temps, ni être dans l'impuissance et je peux rien faire, ni dans la toute-puissance je peux tout faire, mais simplement d'être humain. Et la reconnaissance des limites permet aussi de se faire aider s'il y a besoin, c'est-à-dire on ne peut pas être compétent dans tous les domaines et parfois on demande de l'aide. À son voisin, ou à quelqu'un d'autre, ou à un professionnel, parce qu'il a les compétences qu'on n'a pas.
Alors, autre élément encore
De vérifier. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent à mes patients. Quand on pense qu'on n'est pas capable, avant d'en faire une loi qui condamnerait, il est important de vérifier concrètement si c'est vrai. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont constater que finalement elles peuvent y arriver, que c'est une question et de temps et d'apprendre. Y a plein de choses qu'on sait pas faire, mais si on prend le temps d'apprendre, on arrivera à les faire. De pas se dire qu'on va essayer. Parce que essayer, c'est échouer. On se dit pas, je vais essayer de conduire ma voiture, ou je vais essayer de faire ma vaisselle, ou
je vais le faire, je vais apprendre.
Si je sais pas le faire, je vais apprendre à le faire. Donc de vérifier à chaque fois qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, de vérifier, de se dire peut-être j'ai l'impression que je suis pas capable, mais je vais vérifier quand même.
En le faisant.
Et puis, en le faisant et au besoin, en me faisant aider.
Oui. Hein,
parce que on peut... Après, il y a la question des limites.
Bien sûr.
Donc d'accepter aussi ses limites.
Mais aussi d'accepter l'aide.
Et aussi d'accepter l'aide.
Encore d'autres points importants pour reprendre la construction de base de la confiance.
D'accepter de vivre des expériences. Et plutôt que de mettre un enjeu quasi vital à chaque situation un peu nouvelle, c'est plus important d'apprendre à vivre les événements comme des expériences enrichissantes, indépendamment du résultat. Et même quand on regarde, alors peut-être ça c'est avec les années, on se dit finalement, on apprend autant dans ses échecs que dans ses réussites.
Oui.
Et parfois plus dans ses échecs que dans les réussites. Oui. Parce que quand on réussit, ça veut dire que tout va à peu près tout seul, quoi. Et par contre, un échec, on apprend à se relever, à rebondir. Et donc, de prendre tout ce qu'on a à vivre comme une expérience qui peut nous enrichir, quel que soit le résultat, que ce soit la réussite ou un échec. Ce qui ne veut pas dire irresponsable ou laxiste. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah oui, mais si j'aurais l'impression d'être laxiste, ça n'a rien à voir. » Mais c'est plutôt de mettre l'expérience au cœur de la vie plutôt que le résultat.
C'est plus intérieur que le côté visible qui se verra quand on sera suffisamment exercé.
Ouais. Alors le résultat, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Ce qui est important... D'ailleurs, c'est une phrase qu'on dit aussi au niveau spirituel. Ce qui est important, c'est le chemin.
Oui, bien sûr, être en chemin.
Et voilà, dans la vie, pour toutes les choses de la vie, ce qui est important, c'est le chemin où on expérimente finalement. Et après, le résultat, c'est donné en surplus. Mais d'abord, on a vécu des expériences, on s'est enrichi à travers ça. Même si c'est pas toujours facile, mais on peut s'en enrichir.
Alors donc, autrement, et ces expériences, finalement, elles vont, on va les intégrer aussi à sa vie.
Oui, on va les intégrer et leur donner du sens aussi.
Alors, quelques autres points importants aussi pour...
Alors, s'ouvrir au possible et sortir des fausses croyances limitantes. Alors, je ne parle pas de croyances religieuses, je parle de croyances psychologiques.
Oui. Finalement, on se met des limites en croyant que on peut pas.
Que c'est pas possible par exemple, ou qu'on n'y arrivera pas, ou que voilà. Et du coup, quand une personne a un désir et qu'elle pense que c'est impossible de le réaliser, c'est important de s'ouvrir au possible et pour se laisser une chance de réussir. Penser que c'est impossible, qu'on n'est pas capable avant même d'agir, n'a aucun sens. Puisqu'en tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir si on va y arriver, si c'est possible,
mais évidemment,
si c'est pas
possible.
En tout cas, il faut avoir agi pour pouvoir se dire, j'y arrive pas et j'ai besoin d'aide.
Oui.
Et du coup, toutes ces croyances limitantes, elles conduisent à l'échec.
Mais oui, si on croit qu'on ne va pas y arriver...
Voilà. Et c'est vrai pour toutes les situations. Si on va à un entretien d'embauche en se disant qu'on ne va pas être pris...
Si on part perdant...
On part perdant et on n'est pas convaincant. On n'est pas convaincu soi-même et donc pas convaincant. C'est vrai pour toutes les choses de la vie. L'envers de ça, c'est la foi à déplacer les montagnes.
Vous aviez la foi comme un grain de sénevé.
Voilà. Oui. Et donc, quand on porte cette croyance, et c'est important, les personnes n'en ont pas conscience, mais elles la disent à travers des petites phrases. « J'y arriverai jamais »,« C'est pas possible »,« C'est impossible ».« Pour les autres, mais pas pour moi
C'est des phrases négatives
toutes les petites phrases que les personnes
qui freinent
disent,
tout, qui freinent.
Voilà, qui empêchent et qui limitent la confiance.
Est-ce qu'il y a encore d'autres
Et de la même façon, de sortir du système binaire noir ou blanc.
C'est tout noir ou tout blanc.
Et prendre conscience qu'entre les deux, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui correspondent à tous les possibles de la vie.
Voilà. Et une vie en couleur, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, aussi, d'autres points aussi importants.
Oui, alors de dissocier le faire, l'avoir et l'être. Parce que c'est important de ne pas les mélanger. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire une chose ou qu'on n'a pas une chose que tout notre être doit être mis en cause. Hein? Et ça arrive souvent pour les personnes. Et notamment quand les personnes manquent de confiance en elles au lieu de remettre en cause les circonstances, souvent elles se remettent elles-mêmes en cause. Alors que parfois il suffit de changer les circonstances, de changer l'environnement ou de changer, de demander de l'aide. Voilà, ce qui est une autre façon de changer les circonstances. Et ça permet de réussir.
L'union fait la force, et donc demander de l'aide pour... Si on ne peut pas se sortir soi-même.
Et puis, ce n'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on est nul.
Bien sûr. Ah.
Et donc, c'est vraiment de prendre conscience que ce n'est pas parce que je n'ai pas eu la promotion que je désirais que je suis incompétent. Mmh. Vous voyez ? C'est de différencier ce qu'on est de ce qu'on a ou de ce qu'on fait.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, ce soir, comment démarrer l'année dans la confiance. On écoute tout de suite, écoutez, c'est Jacques Brel, voilà, quand on n'a que l'amour.
Radio Notre-Dame.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, eh bien on a l'essentiel, n'est-ce pas, Pascal Parinet. Et là, on vit dans la confiance.
On vit dans la confiance et on déplace des montagnes.
Et on déplace des montagnes, oui. Et c'est bien ce que cette chanson fait. Ouais. Voilà, on perçoit hein, cette flamme qui remue ce qu'il y a de plus profond dans l'âme humaine.
Dans l'âme humaine et dans le monde.
Et dans le monde. Pour parler au canon, comme dit Valin. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon. Alors, autre point important pour reprendre la construction à la base de la confiance, l'estime de soi.
Voilà. Alors, de prendre le risque d'être soi-même. Alors
est-ce que cela présente un risque d'être soi-même ?
En tout cas, on peut se poser la question de combien de personnes osent être elles-mêmes. Et si elles n'osent pas, c'est bien que ça présente un risque.
Lequel alors, dites-nous.
Alors, peut-être c'est le risque, c'est de ne pas être aimé de tout le monde, mais ça, c'est pas possible.
Il y a des affinités.
Il y a des affinités. Oui. On peut plaire à certaines personnes et pas à d'autres.
Puis des choix de vie aussi, des, comment dire, des valeurs.
Voilà, mais...
si on a des valeurs opposées.
Voilà, mais tout ça, ça fait partie de la vie.
Oui.
Et quand on vit sous le regard des autres, finalement, la personne essaie de montrer une bonne image ou une image suffisamment acceptable pour passer partout ou être suffisamment aimé. Et quand on prend le risque d'être soi-même, finalement, on n'est plus dépendant du regard des autres. Qui n'empêche pas, si c'est nécessaire, de changer pour s'adapter. Hein. Être soi-même, c'est pas, je suis comme ça.
Oui, donc je ne changerai jamais. Il faut me prendre comme je suis. Hein. Voilà. C'est ça.
Ça, c'est de l'égotisme.
Oui.
Mais c'est pas être soi-même.
Oui.
Être soi-même, c'est sortir du regard de l'autre, ne pas chercher forcément à être apprécié de l'autre, mais ça n'empêche pas de changer si à un moment l'autre nous convainc que finalement c'est lui qui a raison.
Ah oui, on n'a pas forcément. C'est comme ça qu'on évolue aussi. Hein.
Ouais.
Donc voilà, ne plus être dépendant du regard de l'autre, mais ce qui n'empêche pas de changer si c'est nécessaire.
Voilà. Et ça permet de ramer dans le courant de la vie. Hein, parce que quand on est dans le regard de l'autre, on rame à contresens très souvent. Hein. Mm. Et quand on accepte d'être soi-même, on est dans le mouvement de sa vie et du coup, les choses sont beaucoup plus faciles et le chemin s'ouvre presque devant soi plus facilement. Ce qui renforce après la confiance.
Alors, y a-t-il encore d'autres points importants pour reprendre
poser des actes. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental pour retrouver la confiance. Il est nécessaire de poser des actes en accord avec soi-même.
Vous voyez, Daniel, tout à l'heure, hein, posant les actes qu'il a posés, il était au chômage, malgré tout, il a
milité pour le... il a milité...
Donc poser des actes, oui.
Alors poser des actes, ça peut être de dire ce qu'on pense, d'exprimer ses sentiments, de réaliser ses désirs. Voilà, il voulait un travail avec un appartement, avec la prière, mais en tout cas ça s'est réalisé.
Faut les moyens, hein, les moyens adaptés.
Voilà. Et ça c'est vraiment... Mais il faut que ça soit en accord avec soi-même.
Voilà,
c'est-à-dire que tous les actes qui vont à l'encontre de ce qu'on est vraiment
en profondeur,
ça va diminuer la confiance. À chaque fois, finalement, où on se trahit soi-même, ça diminue la confiance.
Oui.
À chaque fois qu'on est en accord avec soi-même, ça va augmenter la confiance. Et j'ai envie de dire... Peu importe si on commet des erreurs, si c'est bien fait, mal fait, ce qui est important, c'est pas tant de réussir ou d'obtenir quelque chose de parfait, mais de vérifier qu'on peut se faire confiance. Alors, le plus facile, c'est de commencer par des petites choses qui ne représentent pas un enjeu important. Et puis de vérifier que progressivement, la confiance en soi, elle revient. Alors ça, voilà, parfois, c'est dire à son boulanger qui nous donne une baguette de pain grillé, juste de lui dire, non, je veux pas celle-là, je veux celle d'à côté.
Oser cet acte-là.
Oser des petits actes comme ça qui n'engagent pas énormément. Et puis, petit à petit, ou d'oser aller demander quelque chose à un ami ou téléphoner à quelqu'un. Et puis, de vérifier que ça se passe bien et la confiance revient. Autrement dit, de rentrer dans un cercle vertueux de l'action et de la confiance qui va se renforcer de lui-même. À chaque nouvelle action, ça va se renforcer.
En posant un acte, on vérifie que c'est possible.
On vérifie que c'est possible et du coup, ça donne confiance en soi et ainsi de suite à chaque fois.
Tout ça, c'est être soi-même, ça permet d'être soi-même.
Ouais.
Alors, être soi-même, il y a encore d'autres...
Alors, devenir responsable de sa vie, mais ça, ça va avec. Oui. Parce qu'être soi-même, c'est aussi être responsable, c'est-à-dire assumer notre condition humaine, assumer nos erreurs et nos réussites, et finalement assumer ce que l'on est. Alors, et assumer ça, ce qui
alors,
veut dire...
Alors, ce qu'on peut dire, oui, qu'est-ce que...
Voilà, ça veut dire, c'est d'accepter ce que l'on est, finalement, et c'est rien de plus que ça. Ou d'accepter ce que l'on a fait, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on se prépare à faire.
On l'assume.
On l'assume.
Alors encore, donc là, devenir responsable de sa vie, et puis...
Alors, vivre son identité la plus profonde, parce que nos talents se trouvent dans ce qu'on porte au plus profond de nous-mêmes. Et pour trouver nos talents, on a besoin de laisser vivre cette partie de nous-mêmes qui est notre cœur profond, notre identité profonde, on l'appelle comme on veut, peu importe le nom qu'on va lui donner. Et finalement, quand on regarde, c'est par l'amour que nous portons vers certaines activités que nos talents vont pouvoir s'exprimer. Et l'amour constitue avec le désir la force qui va nous permettre de mettre en œuvre nos dons. Par exemple, c'est l'amour de la musique, c'est ça qui va déclencher le désir de jouer de la musique, qui va nous amener à nous donner les moyens et à savoir jouer d'un instrument.
Voilà, on se met en route et puis il faut apprendre. Il y a le désir qui joue, il faut se donner les moyens et faire l'effort d'apprendre.
Et donc c'est parce qu'on aime telle ou telle chose qu'on va pouvoir mettre toute notre énergie en route et concentrer tout notre être pour la réaliser. Et ça c'est important pour se faire confiance, il faut aimer.
Oui.
Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer, je ne sais pas, si on veut trouver du travail, il faut aimer le travail qu'on cherche.
Mais oui.
Parce que si on n'en a pas envie...
ça ne va pas aider.
Ça ne va pas aider.
On n'aura pas l'énergie.
Voilà, si on veut, quelles que soient les choses qu'on veut réaliser ou faire dans la vie, il faut les aimer.
Bien sûr.
Et je crois que parce que l'amour, c'est ce qui va nous donner...
C'est le moteur.
C'est le moteur.
Quand on n'a que l'amour, comme disait Jacques Brel.
Voilà, c'est exactement ce que disait Jacques Brel. Et finalement, quand on regarde un peu plus que nos capacités, tous nos talents vont être la forme par laquelle l'amour qu'on porte en nous va pouvoir s'exprimer. Au travers des activités, c'est-à-dire que on peut se poser la question des compétences, de ce qu'on sait faire, mais finalement, quand on regarde vraiment, ce qui est le moteur dans tout ça, c'est l'amour qu'on porte en nous qui va s'exprimer vers les choses qu'on aime.
Bien sûr.
Et c'est là où on pourra développer des talents, et on le voit avec les enfants, quand ils aiment une matière, ils travaillent bien, et s'ils n'aiment pas une matière, en général, ils peuvent faire beaucoup d'efforts, mais ils n'ont pas les mêmes résultats.
Bien sûr, oui.
Et donc, l'expression de nos talents, ça va passer d'abord par l'accueil de l'amour qu'on porte au plus profond de nous-mêmes.
Voilà, ça va être l'expression de cet amour.
Ouais.
Et alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour...
Alors, on pourrait dire que les enfants développent leur confiance à partir du regard qui est porté sur eux par les adultes. Ça, c'est vrai pour tous les enfants qu'on a été nous-mêmes. Et donc, finalement, c'est une transmission, puisque c'est le regard des adultes. L'adulte transmet à l'enfant son regard et que l'enfant va adopter.
Oui, va l'accueillir.
Donc c'est une transmission et que nous pouvons nous aussi nous transmettre cette confiance entre adultes. C'est-à-dire que quand on regarde un adulte, La façon dont on le regarde, si on le regarde avec confiance ou pas, si on le regarde avec amour ou pas, on va lui transmettre de la confiance ou pas. Il y avait une expérience dans une classe, une école où ils avaient mis dans une classe ils avaient regroupé des cancres. Alors des cancres, ça ne veut pas dire qu'ils étaient idiots. Des enfants qui étaient considérés comme des cancres, mais ils les ont mis dans une classe, mais en disant au professeur, ce sont les meilleurs élèves qu'on a regroupés, on veut faire une expérience avec les meilleurs élèves, on a pris dans différents lycées ou collèges, je ne sais plus trop quoi, les meilleurs, et on les a regroupés pour qu'ils aillent plus vite. Et le regard des professeurs, donc, qui pensaient que c'était les meilleurs alors que c'était les derniers de la classe, a fait que simplement tous les élèves se sont mis à travailler et à avoir des très bons résultats.
Parce qu'ils ont été stimulés par cette confiance qu'on leur faisait.
Voilà, on leur faisait confiance à l'insu du professeur qui croyait qu'il allait les meilleurs. Et voilà. Mais je crois qu'il y a vraiment ce regard aussi, et ça on peut se le transmettre dans le travail, dans la famille, entre amis. Voilà, si on porte un regard d'amour sur l'autre, on va lui transmettre de la confiance.
Un grand merci Pascal Parinet. Voilà, donc voilà comment on peut démarrer l'année dans la confiance. Je pense que vous avez, vous donnez une série de conférences à Bernanos.
L'espace Bernanos, oui.
Tous les mois, chaque mois, donc c'est à 18h30, l'espace Bernanos, pour les auditeurs qui sont sur Paris ou qui peuvent venir sur Paris, qui sont de passage. Et la prochaine, c'est le 23 janvier.
C'est ça, sur le thème, alors je vous le dis de mémoire, je crois que c'est les...
Comment gérer les
conflits.
Comment
faire face aux conflits et à l'agressivité.
Voilà.
Sinon tout ça est sur notre site internet,
qu'on peut redonner,
donc psychretien.com, et vous verrez, il y a les conférences à l'espace Bernanos, il y a les émissions Écoute dans la nuit,
il y a
tout notre programme.
Et le programme. Un grand merci Pascal Parinet, merci à tous nos auditeurs, merci également à Marie-Françoise et Catherine qui étaient au standard, Michael aussi, et Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit deux invités, Michael Lonsdale, acteur, metteur en scène, et Nicolas Celloro, pianiste et compositeur. Soirée de méditation poétique et musicale autour de la prière à partir du livre de Michael Lonsdale paru aux éditions Philippe Ray, et Ma bouche dira ta louange, mes plus belles prières. Très très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.